Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jean-Luc Lambert, je suis le président du club Agile Caen. Je suis aussi enseignant à l'IA de Caen et à l'UFR des sciences, je suis universitaire. Et j'ai eu un parcours un peu atypique, puisqu'en 1999, j'ai créé une start-up dans laquelle je suis resté pendant 5 ans. Je me suis rendu compte qu'en sortant de l'université, j'étais une vraie buse en management, ce qui m'a marqué. Durement, mais aussi efficacement, puisque c'est à partir de ces erreurs qu'on construit d'autres choses. À la fin de ma start-up, au bout de 5 ans, je suis rentré à Bouygues Télécom. J'ai travaillé à la DSI de Bouygues Télécom, où j'ai été chef de projet. Je n'avais pas le titre officiel, mais en fait, c'est quand même ce que je faisais. Et c'est là que j'ai vraiment appris ce qu'était le management de projet, et c'est là que j'ai compris pourquoi il fallait faire de l'agilité. Quand je suis revenu à l'université au bout de 5 ans, où là, j'avais réussi mes projets, eh bien, j'ai voulu enseigner le management de projet, puisque c'est ce que j'avais appris, ce que je connaissais bien. Et donc, j'ai créé le club Agile Caen, tout simplement parce que c'était ce qui se développait en informatique comme type de management de projet. Voilà l'histoire. Et c'est important parce que dans ce que je vais vous raconter, il y a toute cette expérience professionnelle qui ressort quelquefois. Et dans les petites histoires que je vais vous raconter, ce n'est pas sans rapport avec ce que j'ai vécu. Donc, je vous propose une conférence sur l'agilité, finalement, c'est que de la communication. Ouais, c'est que de la communication. Alors, ça m'amuse de dire ça parce que il y a, disons, 18 mois, il y avait un ministre dont on disait « c'est que de la communication, il se présente à la présidente de la République, mais c'est que de la com ». Il est aujourd'hui président de la République. Donc, la communication, c'est peut-être quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Il y a aujourd'hui de temps en temps l'impression que la communication, c'est superficiel, alors qu'un manager ou un chef de projet, il s'aperçoit très vite que ce qui compte, le truc vraiment fondamental, c'est sa communication. C'est ça qui fait bouger les équipes. Donc c'est vraiment important de travailler sa communication et ce n'est pas juste quelque chose de superficiel. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'agilité, en fait, c'est rempli de techniques extrêmement simple mais extrêmement efficace de communication. Il faut s'apercevoir que le printemps agile est organisé par 22 organisateurs qui ne se voient presque jamais, mais qui communiquent tout le temps. Alors on a un outil qui s'appelle Trello qui permet de communiquer, et on arrive à organiser ça comme ça, et c'est un événement qui croît au fur et à mesure. Alors vous constaterez qu'il y a toujours des petits trucs qui ne sont pas parfaits. Bah oui, on a 20 à 30% d'augmentation chaque année, donc c'est difficile à gérer. Mais on est toujours sur le feu, on est toujours sur le terrain, on est toujours en train de communiquer, et chaque problème trouve une solution très très vite. Même les grèves de train, on a appris hier qu'il y avait des conférenciers qui n'étaient pas là, ben on a déjà trouvé des solutions. En fait, le problème était apparu qu'il y avait déjà des solutions qui étaient proposées. Donc je vais vous raconter un petit peu des éléments de base de la communication et comment l'agilité permet de traiter ces problèmes-là. Alors je vais commencer par remercier tous nos partenaires hein, qui sont importants et qui nous permettent de garder cet événement gratuit. Vous pourrez regarder tous les logos. Voilà. Et c'est important parce qu'ils représentent toute la diversité des domaines où on peut appliquer l'agilité de l'enseignement, car c'est très très utile en enseignement. Moi je suis enseignant et je la pratique beaucoup, jusqu'aux process les plus industriels, comme chez Bosch par exemple, où ils commencent à vraiment mettre en place de l'agilité. Le Gallet aussi a mis en place beaucoup de choses. Alors, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Une logique de la communication », un livre des années 70, de Paul Watlavix, Helmut Bivin et Don Jackson. C'est l'école de Palo Alto, de la systémique de Palo Alto. Paul Watlavix était psychiatre. Il était psychiatre, il a beaucoup travaillé sur les schizophrènes. Et ça l'a amené à beaucoup d'études théoriques sur la communication pragmatique, c'est-à-dire la communication entre deux personnes, ou une personne et un groupe, mais des choses très pragmatiques, ce n'est pas de la théorie complexe, c'est de la théorie de l'expérience. Alors, ils ont posé, pour définir le fonctionnement de la communication humaine, et ça c'est très important parce que l'agilité, ça repart du fonctionnement de la communication humaine. 5 axiomes. Alors ça m'a plu parce que moi, je suis matheux à la base, donc je dis des axiomes, très bien. Watlavix aime bien les maths et prend souvent des références mathématiques. Premier axiome, il est impossible de ne pas communiquer. Le non-comportement n'existe pas. Si je ne fais rien, je communique. Deuxièmement, toute communication présente deux aspects. Le contenu, ce qu'on dit, et la relation qu'il y a entre les personnes qui communiquent. La relation englobe le contenu. C'est-à-dire, en fait, la relation est plus importante que le contenu. Le contenu n'est interprété que dans le cadre de la relation. Je vais détailler au fur et à mesure les conséquences pratiques de ces choses. Mais quand on se parle, on ne fait pas que se parler, que d'échanger des mots. On échange et on est en relation. Et cette relation a des conséquences sur ce qu'on comprend de ce qu'on échange. La nature d'une relation dépend de la ponctuation de séquences entre les partenaires. Et il y a des séquences qui peuvent être des séquences de confrontation, auquel cas ce qu'on dit n'a pratiquement absolument plus aucune importance. C'est juste des combats d'ego. Quatrièmement, l'homme utilise deux canaux de communication, les mots, c'est ce qu'on appellera la communication digitale, comme dans l'informatique, et la communication analogique, les attitudes, le regard, la façon d'être. Et les deux se superposent et sont simultanés. Mais ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques et les mêmes conséquences. Et la dernière, tout échange de communication est symétrique ou complémentaire. Symétrique, les deux partenaires jouent le même rôle. Complémentaire, il y en a un qui est en position haute et l'autre en position basse. Alors, c'est les bases, les cinq axiomes, les cinq bases de la communication qui ont été définies par cette équipe de psychiatres et qui leur permettaient de comprendre ce qui se passait dans l'interaction entre eux et leurs patients, mais aussi ce qui se passait, par exemple, dans les familles de schizophrènes. Car pour eux, dans leur explication, la schizophrénie était très largement une problématique de pathologie de la communication, et en particulier de la communication familiale. Je ne rentrerai évidemment pas dans les débats psychiatriques sur le sujet, mais disons que Paul Watzlawick se place dans une école qui est, de ce point de vue, proche de l'agilité, à savoir que ce qui est important pour résoudre un problème et pour provoquer un changement, ce n'est pas tellement de connaître les causes de la situation que d'introduire une modification de la façon dont les acteurs vont voir ce qui se passe, vont voir le monde, pour provoquer un changement. Et ce sont des choses que j'ai constatées en agilité et auprès d'équipes d'étudiants extrêmement souvent. C'est-à-dire que, qu'importe d'où vient le problème, il se résout autrement. Par des techniques que je vais vous montrer d'ailleurs, et qui sont approfondies dans les livres de Watzlawick. Alors, il est impossible de ne pas communiquer. Ok, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en agilité. Il y a l'expérience de Luft. Luft, c'est un psychiatre qui a fait une expérience qui consistait à mettre deux personnes, deux cobayes, dans une salle. On en met un là, on en met l'autre là-bas, et on leur dit « ne communiquez pas ». Qu'est-ce qui se passe? Ah ben on leur impose de rester, donc ça dure longtemps, si. Ouais. Et ils n'arrêtent pas de communiquer. En fait, c'est horriblement stressant. Vous devriez essayer. C'est pas inintéressant, c'est horriblement stressant. En fait, on ne sait pas ne pas communiquer. Deux personnes en contact communiquent. Ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas forcément comment, mais ils communiquent. Ce qui explique parfois qu'on a, face à une personne, une certaine angoisse. On l'a à peine vu qu'on a déjà l'angoisse. Une fois, j'étais à l'Agile France. Alors, j'ai une personne qui me dit « Il faut absolument que vous voyez ce spécialiste. Là, c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Je vais le voir. » Je l'avais deux secondes. Hein, j'avais le sentiment d'être une merde. Incroyable. C'était un manipulateur narcissique typique. Il avait tous les symptômes. C'est magnifique. Un beau cas. Il était à l'Agile France, hein, ce qui veut dire qu'il y a des agilistes bizarres aussi. Mais bon, et voilà, non, ça se voit tout de suite, quoi. Ça se sent tout de suite. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas communiquer. Et ça s'utilise beaucoup en agilité. Je l'ai fait à mes étudiants de l'IAE cette année. Je les ai fait tirer au sort leur équipe. Et pour qu'ils tirent au sort, il fallait qu'ils viennent tirer au sort dans le chapeau d'Harry Potter, dans le choix-peau, leur équipe. Et je leur ai dit, bon, voilà, il faut que vous fassiez ça. Chacun à votre tour, vous allez passer, vous vous présentez, vous tirez votre équipe. Je leur dis, allez-y. Et je me suis mis dans le coin. Ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors, de façon différente suivant les équipes, mais ils se sont mis en mouvement tout seuls. Et pourquoi je fais ça? Alors, ça, c'est important parce que c'est très utilisé en agilité. On fait ça tout simplement parce que, bon, ne pas communiquer n'est pas possible. Donc, quand je me mets de côté, je communique. OK, vous êtes autonome. Je ne leur dis pas. Je le communique. Et donc, ils sont obligés de devenir autonomes. Et donc, ils sont venus, chacun à leur tour, et ils se sont organisés de façon différente. Il y en a qui l'ont fait par rangée, il y en a d'autres spontanément, mais ils l'ont fait. Et ça, c'est très utilisé en agilité quand on se dit il faut rendre une équipe autonome. Leur dire « soyez autonome », ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire. « Soyez autonome », ça veut dire « obéissez-moi, soyez autonome ». Non, mais on obéit ou on est autonome. C'est une injonction contradictoire. Par contre, si on se met en recul, spontanément, les gens vont se mettre à devenir autonomes. Donc, il y a plein d'ateliers agiles, on l'utilise régulièrement dans des prestations agiles, en rétrospective ou autre. Ce sont des choses que l'on fait régulièrement. Donc voilà, ça, c'est l'expérience de Luft. Et donc, il faut bien savoir que, de toute façon, il n'y a pas de non-comportement. De toute façon, vous communiquez. Il n'y a pas à en sortir. Pour Vatlavik, c'est une des grandes causes du malaise des schizophrènes, de la communication schizophrénique. Pour lui, très souvent, les schizophrènes sont des gens qui ne veulent pas communiquer. Mais comme ils ne peuvent pas ne pas communiquer, ils communiquent de façon délirante. Et toute la difficulté est de savoir si c'est la communication qui est délirante ou la personne. Évidemment, mais une communication délirante donne l'impression que la personne est délirante, alors que c'est peut-être juste une façon de ne pas communiquer. Vous avez ça chez des développeurs de temps en temps. Si, si. Des développeurs, ils vous racontent un truc tellement compliqué, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas communiquer. Parfois, c'est juste ça. Parfois, c'est parce qu'ils sont maladroits, et parfois, c'est parce qu'ils ne veulent pas communiquer. Donc, ils vous disent un truc, et dans les collaborateurs d'entreprise, il y en a, ils ne veulent pas communiquer, donc ils vous disent des trucs incompréhensibles. Et c'est une façon de ne pas communiquer, d'essayer de se fuiter. Et... Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la relation englobe le contenu, c'est-à-dire que ce que vous dites n'a de sens que dans le cadre d'une relation. Alors, quand le petit garçon dit à sa maman « j'ai faim », il serait quand même bizarre que la maman réponde « merci de m'en informer ». Mais il informe sa mère du fait qu'il a faim, c'est vrai. Mais enfin, il attend qu'on lui donne à manger. Parce que dans le cas d'une relation enfant-maman, la mère est censée nourrir son fils. Donc effectivement, un enfant va dire « j'ai faim » parce qu'il veut manger. Alors vous apercevrez que les enfants apprennent très très vite à dire des choses comme ça pour que les parents réagissent sans dire qu'ils veulent quelque chose vraiment. Ils comprennent très vite ce code-là. Implicitement, quand un enfant dit à sa mère « j'ai faim », c'est qu'il a envie de manger. Quand la mère dit à l'enfant « j'ai faim », c'est les mêmes mots. Ouais, ça, je ne sais pas, ça dépend des cas. Ça peut être « j'ai faim, on se met à table ». Ça peut être « j'ai faim, bah j'ai faim ». Voilà, ça peut être juste une information. En tous les cas, elle n'attend pas que son fils lui fasse la cuisine. Enfin, en général. Donc, la chose n'est pas la même. Dans le premier « j'ai faim », c'est une demande. Le deuxième, c'est plutôt un échange ou éventuellement une invitation à aller à se mettre à table. Mais en tous les cas, ça n'a absolument pas le même sens. Parce que la relation n'est pas la même. Et donc, quand vous dites quelque chose, vous n'avez pas forcément conscience, mais vous le dites dans le cadre d'une relation. Et le sens peut être compris de façon différente par la personne d'en face qui n'a pas forcément la même vision de la relation. Donc c'est assez complexe. Et très souvent, la communication entre deux personnes ne se limite pas, enfin même pratiquement jamais, ne se limite pas à simplement un échange de mots. Ça, c'est clair. Il n'y a pas que le message. La relation est aussi liée à la définition de soi. Alors ça, c'est quelque chose de très important. On considère qu'une bonne partie de notre relation et de notre communication sert non pas à donner des informations, mais à en recevoir. Est-ce que je suis ce que je pense? Est-ce que tu me reconnais comme étant ce que je suis? Si je suis chef de projet, j'ai été chef de projet, quand je parlais à une équipe projet, il fallait qu'elle me reconnaisse comme son chef de projet. Donc, en fait, l'information que je donnais, elle avait au moins autant comme but d'échanger des informations, donc de leur apporter des informations sur le projet, que de montrer ma posture de chef de projet. Et on peut très bien communiquer et finalement n'attendre aucune réponse. La seule chose, c'est d'être reconnu. J'ai eu une expérience qui était intéressante quand je suis rentré à l'université, c'était en 91, ça fait un bail, 92. J'ai la gestionnaire de scolarité de l'UFR des sciences qui me dit, en regardant un problème d'emploi du temps, « Bon, ben voilà, donc ça pose ces problèmes-là, j'espère que les informaticiens y ont pensé. » Moi, je débarquais, les informaticiens y ont pensé. Non, je ne savais même pas que le problème existait. J'ai juste montré de l'empathie. Ça a suffi, elle a trouvé la solution. ne s'attendait absolument pas à ce que je résolve le problème. Elle m'a dit, est-ce que les informaticiens ont une solution? Ce n'était pas pour que je lui dise quelle était la solution. Elle aurait été même très vexée que j'ai une solution qu'elle n'avait pas. Non, ce qu'elle voulait, c'est juste être reconnue comme étant gestionnaire de scolarité, donc comme devant avoir la solution. À partir du moment où j'ai montré que je la reconnaissais, elle a trouvé la solution. Vous avez ça auprès des équipes, auprès des étudiants, c'est très très courant en fait, qu'on parle non pas pour donner de l'information, mais pour en acquérir. Alors, il y a trois types de réponses qui sont possibles. Il y a la confirmation, ouais, t'es un super chef de projet, ça on est content. Et c'est important parce que c'est quand la confirmation est là que les échanges vont être fluides. Forcément, il peut être beaucoup plus informatif une fois que ça s'est établi. Je te reconnais comme chef de projet et moi, tu me reconnais comme développeur. Ok, ça marche, on va pouvoir continuer. Mais il faut que cette phase-là ait été réalisée. Le rejet, ah non, non, t'es pas mon chef de projet. C'est dur à vivre, mais c'est nécessaire parce que c'est quand même comme ça qu'on se construit. Et c'est important, en particulier, moi je suis enseignant, donc pour les étudiants, c'est important de leur dire, mais là, vous avez foiré le projet. Ils ne sont pas contents, mais c'est important qu'ils le sachent. Parce qu'après, ils vont pouvoir s'améliorer, ils vont pouvoir découvrir. C'est quand même un respect que de leur faire un retour. Parce que le pire, c'est le déni. C'est le non-retour, ou la réponse, ouais, c'était pas mal. Visiblement, il n'y a aucun enthousiasme, mais en fait, on laisse courir. J'ai eu des cas comme ça. J'ai une fois une équipe à Mimi à Salo. Je jouais le rôle de client et à un moment, c'était vraiment du déni. C'est-à-dire que je ne savais plus quoi leur dire. Ils ne m'écoutaient tellement pas que je ne savais plus quoi leur dire. Et c'est le pire, en fait. Le déni, c'est ce qu'il faut éviter. Le rejet vaut infiniment mieux que le déni. Le rejet, ça veut dire tu existes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas le niveau que tu penses avoir. Tu ne sais pas faire ce que tu prétends faire, mais tu existes. Le déni, c'est de toute façon, c'est même pas la peine que je m'intéresse à toi. Et donc, effectivement, quand Vatlavix parle des schizophrènes, il parle beaucoup de ce déni au sein de la famille, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à être quelqu'un. Parce que, de façon inconsciente, des relations pathologiques avec leurs parents, par exemple, posent problème, fait qu'ils ne sont jamais reconnus comme étant, comme étant quelque chose, comme étant une personne. Ils n'arrivent pas à positionner leur personnalité. D'où leur désir, ensuite, de ne plus communiquer. Alors, vous pouvez lire les livres de Vatlavix, c'est vraiment passionnant, les dialogues de schizophrènes, c'est absolument fascinant, il y a des trucs extraordinaires. Ça apprend beaucoup de choses sur la communication. La ponctuation des séquences entre partenaires, alors ça, c'est une séquence que j'ai eue à Bouygues Télécom, et je m'en souviendrai toujours. C'était un monsieur qui s'appelait Bertrand. Alors, à Bouygues Télécom, je jouais à aller chercher les données des clients, donc le numéro de téléphone, les contrats, nom, prénom, adresse et tout ça. On en avait 9 millions de clients, donc on en extrayait 10 000, et on les donnait aux équipes de test, en particulier aux fournisseurs, aux sous-traitants, qui récupéraient ces données et qui pouvaient les utiliser pour faire du test des applicatifs qu'ils développaient. Et une des difficultés, c'était de les anonymiser, donc qu'elles soient effectivement masquées, qu'on n'ait pas le vrai numéro de téléphone ou le vrai numéro de carte bleue. Vous voyez bien pourquoi, le problème que ça pouvait poser. Et donc, je vais voir M. Bertrand, qui était responsable d'un service extrêmement technique qui s'appelait la collecte et qui collectait tous les appels de Bouygues Télécom. C'est-à-dire, quand machin appelait truc, ça créait ce qu'on appelait un ticket de taxe qui dit machin appelait truc pendant 2 minutes et qui arrivait. Donc, c'était des systèmes qui étaient sous pression tout le temps parce que très stratégiques et en même temps techniquement très, très complexes. Il fallait que ça turbine à toute vitesse. Donc je lui dis, bonjour, je fais de l'extraction de données. Il me répond, oui, et alors? Bon, ouais, mais alors pour l'extraction de données, j'ai besoin de... Je vois pas l'intérêt. D'accord, mais j'ai besoin de comprendre, je vois pas ce que tu veux. C'était mal barré. Et partout ailleurs, ça marchait très bien, mon truc, mon petit discours. J'arrivais, je fais du jeu de données, voilà, ça fait ça. Et ils comprenaient tous, lui. Mais ça a été très dur, hein, c'est-à-dire on a failli en venir aux mains. Hein. Pourtant, je ne suis pas violent, mais franchement, mais il m'énervait, mais ce n'est pas possible. Et comme je l'énervais aussi, ce n'était pas possible non plus pour lui. Donc on s'énervait à mort et c'était insupportable. Et alors, la séquence entre partenaires, il faut la voir du point de vue de chacun des partenaires. Donc, hop, si on regarde de mon point de vue... Je lui dis, je fais de l'extraction de données, le gars, il me répond, oui, et alors? Non, mais bon. Alors je lui dis, mais pour l'extraction, j'essaie de le comprendre quand même. Je lui dis, voilà, j'aurais besoin de ça. Et il me dit, je ne vois pas l'intérêt. Non mais franchement, c'est une buse ce type, c'est pas possible, il me méprise, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est insupportable. Le gars, je lui viens lui demander un truc et il veut pas me répondre. Insupportable. De son point de vue, c'est différent. De son point de vue, il me dit, le gars, il me parle d'un truc, ça ne me concerne pas. Je lui dis, oui, alors, il insiste. Je lui dis, je ne vois pas l'intérêt. Il insiste encore. J'ai rien compris à ce qu'il m'a demandé. Donc lui, il ne m'a pas écouté. Enfin, mon sentiment, c'est qu'il ne m'a pas écouté. Et son sentiment à lui, c'est que je lui demande un truc, il ne comprend rien à ce que je lui raconte. En fait, j'avais un discours qui était plutôt un discours commercial vers les équipes en disant quel est l'intérêt de chercher du jeu de données, et lui ne supportait qu'un discours technique. Et on est rentré comme ça dans une séquence, mais c'était vraiment une séquence, on ne s'en sortait pas, on était incapable de s'en sortir. On était en confrontation et cette confrontation n'arrivait pas à se terminer. Et c'est une expérience qui m'a marqué parce que je n'en vis pas beaucoup des comme ça, je ne sais pas tellement dans mon caractère. Heureusement, j'avais un collègue qui s'appelait André. Il était bêtement en retard à cette réunion-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est monté comme ça. Il était en retard, il est arrivé avec un quart d'heure de retard. Il a débarqué dans la salle. Il a dit bonjour, voilà. Alors, où vous en êtes? Bertrand lui a dit où on en était. Il a dit, ouh là là, reprenons les choses à zéro. Calme. C'était très très vexant pour moi. Parce qu'il était sous ma responsabilité, ce gars-là. Mais bon, c'est pas grave. Il a tout de suite établi une relation avec Bertrand. C'était un technique, Bertrand était un technique, André et Bertrand parlaient le même langage, avaient les mêmes tics et les mêmes façons de voir les choses. Ils se sont parlé. Bertrand a arrêté de parler à un type commercial, en l'occurrence moi, qui ne pouvait pas supporter. Moi, j'avais un excellent rapport avec André aussi, on se comprenait. Et donc, André a créé la relation entre Bertrand et moi. Et la réunion s'est très bien terminée. Et ça m'a marqué parce que c'est très vexant quand vous êtes manager et que votre N-1 vient sauver la situation du foirage dans lequel vous l'avez mise. C'est vexant. Donc, voilà. Et donc ces séquences, évidemment, sont essentielles parce que quand on rentre dans une séquence, on ne sait pas qui a commencé, mais quand on rentre dans une séquence de confrontation comme ça, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est vraiment difficile de se sortir d'une séquence qui a démarré. Et on a beaucoup d'expériences comme ça. Et parfois, il suffit juste que quelqu'un se pointe et ça change. Tout simplement parce qu'il n'aura pas la même relation, il va vous sortir de cette séquence. Alors, on peut aussi rompre les séquences, donc l'intervention d'inter pour rompre la séquence. On peut parfois la rompre soi-même. Ça, ce sont des séquences que j'ai souvent avec les étudiants. Je joue le rôle du client. Donc, dans ma tête, je suis client. Dans la tête des étudiants, surtout si je les note, je suis prof. J'aimerais bien qu'ils me voient comme client. Oui, mais eux, ils me voient comme prof. J'y peux rien. Donc, ça donne parfois des séquences un petit peu surréalistes, du style. Je fais une suggestion critique à ce qu'ils me présentent, une suggestion critique en termes de clients, et eux, ils me disent OK. Non, je ne veux pas qu'ils me disent OK, je veux qu'ils me donnent une solution, qu'ils me donnent quelque chose. Mais non, ils disent OK. Bon, ils disent, ouais, on a mal fait. Non, c'est pas ça avec les clients. Bon, donc je refais une suggestion critique, ils me répondent encore OK. Et là, j'en sors pas. Je suis dans une séquence avec eux, je suis prof, je voudrais être client, mais non, je suis prof et je ne peux pas ne pas être prof, je suis prof. Je refais une suggestion critique. Et là, ils me disent, ah ouais, mais vous nous aviez dit que... Ah, ils se révoltent. Et ça, c'est génial. Ils se révoltent. Ils sont contre moi. Le prof, il fait chier. Il n'est pas possible. Il est contradictoire. Bah ouais, il est contradictoire comme un client. C'est un client, c'est pas un prof. Donc, il est contradictoire. Et ils se disent, oui, mais là, vous exagérez. Bah, voilà, là je peux poser calmement les choses. Je suis votre client, je me comporte comme un client, je ne suis pas un prof. Ah! Là, ils sont rassurés. Ils disent, il ne va pas nous noter parce qu'on répond mal aux clients. Et ils repartent et là, le processus marche. Mais il faut cette rupture de séquence. C'est-à-dire, et ça c'est important, parce qu'on le constate aujourd'hui dans certaines communications, j'en parlerai tout à l'heure, l'irritation c'est bien. Faut pas faire du démagogique. Caresser les étudiants dans le sens du poil, c'est pas bien. Ou les collaborateurs. De temps en temps, faut les énerver, parce que les énerver permet de rompre la séquence et de changer la vision des choses. Et c'est parce que les étudiants me disent, mais vous avez dit que là, vous n'êtes pas cohérent et tout, que je peux leur dire, mais je ne suis pas cohérent parce que je suis client, je ne suis pas prof. Considérez-moi comme un client, ça permet de parler de la relation. Et très souvent, ces séquences, elles sont destructrices, mais on ne parle jamais de la relation qui est notre relation. Donc justement, la rupture de séquence permet de parler de la relation. deux canaux de communication. Ça va jusque-là ? Oui. N'hésitez pas si vous avez une question. Je pense qu'on aura un peu de temps pour les questions après. Les canaux de communication digital et analogique. Donc digital, c'est le verbal. Ça définit le contenu de la relation. Bon, classique, c'est les mots. Ils ont une signification. Généralement, pas trop ambiguë, mais en tous les cas, riche. L'analogique, c'est le non-verbal et ça définit la relation. L'analogie. L'analogique, ce sont les postures, les intonations, les attitudes, les regards. Tout ça, ça définit la relation. Et il y a des caractéristiques bien distinctes. Le digital, c'est complexe, ça permet d'exprimer des réalités très complexes et très riches. C'est le langage, hein. C'est pas pour rien qu'on l'a inventé, c'est que ça permet d'exprimer des choses vraiment complexes, abstraites. Ça permet d'exprimer des négations, par exemple, des alternatives, toutes sortes de choses très très riches et très importantes qui permettent, qui ont permis de construire nos sociétés complexes. Il est relativement univoque, évidemment il y a des phrases ambiguës de temps en temps, mais il ne dit qu'une chose quand même, grosso modo, enfin, dans la plupart des cas. Il autorise la négation et l'alternative, donc c'est quelque chose de riche, alors que le langage analogique, il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Il est simple, il est équivoque. Que signifie un regard ? Chacun peut avoir une interprétation différente d'un regard, d'une façon de regarder, d'un comportement. On constate très facilement, vous avez sûrement eu déjà cette expérience, qu'une même personne est vue de façon très différente par deux individus. Et tout simplement parce qu'ils n'interprètent pas de la même façon sa façon d'être ou le caractère analogique. C'était un peu le cas avec Bertrand et André, d'ailleurs. On ne voyait pas Bertrand de la même façon, ça c'est clair. Il n'autorise, et ça c'est important, ni la négation, ni l'alternative. Donc, on ne peut pas vous dire « ne panique pas ». J'ai une étudiante comme ça qui a fait un truc, je lui ai dit que c'était pas bien quand même, mais elle a envoyé un mail à une cliente qu'elle avait un peu plantée parce qu'elle n'avait pas son site web. Elle a envoyé un mail en disant « pas de panique, machin va traiter le truc ». Donc la réaction de la cliente, bah, c'est « pas de panique, donc il faut que je panique ». Si elle dit « pas de panique », c'est que je suis censé paniquer. Et donc évidemment, elle paniquait. Bon, il n'y a rien à faire. Quand vous avez une émotion, vous ne pouvez pas la supprimer. On ne peut pas dire « n'angoisse pas ». Ça ne marche pas. Le seul moyen de traiter une émotion négative, c'est de la remplacer par une émotion positive. Et ça, c'est important. C'est pour ça que les jeux agiles sont importants. Je vous dis, allez voir, faites des jeux agiles, mettez-vous en situation émotive de jeux agiles. Tout simplement parce que dans les jeux agiles, on va vous mettre dans ces situations. Mais c'est un jeu, donc c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Et on va vous apprendre, par exemple, le client change d'avis, on va vous apprendre à réagir de façon à ne pas voir ça de façon négative et avoir des émotions positives, et de garder des émotions positives. Et c'est très important, parce que si vous avez une émotion négative, elle va rester. Et c'est très très difficile à changer. Alors il y a des cas de changement qui sont parfois stupéfiants. Hein. J'avais un gars avec que je ne pouvais plus blairer, je ne pouvais plus le supporter, parce que j'avais eu des problèmes avec lui lors d'un projet, il ne me répondait pas, enfin j'arrivais pas à le faire travailler sur mon projet. Et puis un jour, on fait un challenge sportif. Je me casse magnifiquement la figure sur une espèce de poutre où on repoussait avec des espèces de super, de méga trucs, avec des perches. Et il me tend la main pour me relever. Je ne l'ai plus jamais vu de la même façon. L'émotion négative a été remplacée d'un seul coup par une émotion positive, un changement de cadre. Et je n'ai plus du tout vu la personne de la même façon. Et la nouvelle émotion était aussi forte que la précédente. Et tout aussi contradictoire. Mais on m'aurait dit, mais non, il ne faut pas que tu le détestes, c'est un gars bien, ça n'aurait rien changé à mon émotion vis-à-vis de lui. Mais le fait qu'il me tende la main quand j'étais en difficulté a changé les choses. Et ça, c'est important, en particulier dans les projets, quand vous avez des personnes qui sont en panique. Je fais beaucoup de passés de rétrospectives avec des étudiants en DUTTC, par exemple. Et il y en a certains qui se disent oh, « on fait plein de trucs, on n'en peut plus. » Bon, ok. On regarde ça calmement. C'est leur dire « faut pas faire plein de trucs, ça sert à rien. » Mais leur dire « quelle est la chose la plus importante à faire ?» Posément. Elle dit « ça c'est important. » Bon alors ça, pourquoi c'est important ? Et vous les faites parler sur ce qui est important. Et là, ils perçoivent le calme que vous diffusez. Ils expliquent leur truc, mais ils perçoivent le calme. Et c'est ce calme qui, petit à petit, fait qu'ils vont changer d'attitude. Ce qui est très important, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la posture des chefs de projet, de la posture des agilistes, c'est super important, c'est de donner cette impression de calme et de maîtrise. Il y a un problème compliqué qui arrive, il y a une conférencière qui ne peut pas venir, on le prend avec calme et on transmet ce calme à l'ensemble de l'équipe. Et c'est super important. Et j'ai fait à Cherbourg il y a 3 semaines à peu près, des rétrospectives, tous les projets étaient à la bourre, ils ne pouvaient pas supporter l'enseignement de gestion de projet parce qu'il était super exigeant, on leur demandait tout le temps des livrables, des choses à mettre en place. J'ai fait des rétrospectives avec eux, c'est tout juste, ils ne m'ont pas embrassé. D'ailleurs, le projet qu'ils voyaient de façon très négative, ils l'ont vu de façon positive, rien que par la façon de le regarder, la façon dont je regardais leur projet, dont je regardais leurs difficultés, ils voyaient un autre point de vue, d'autres émotions. Je les ai fait parler et petit à petit, ils sont passés d'émotions négatives à des émotions beaucoup plus positives. Et ça, c'est important. Il faut remplacer les émotions par des émotions positives. D'où l'importance qu'on a en agilité, dans les ateliers agiles, de transmettre ces nouvelles émotions. On utilise beaucoup le dessin, par exemple. Vous faites une rétrospective, c'est une sorte de jeu. Vous dessinez un bateau. Vous avez un magnifique speedboat sur un bateau comme ça sur le stand de la fabrique agile. Eh bien, ça change le cadre. Ça change les émotions, on est en train de dessiner et les gens vont pouvoir se mettre à parler des problèmes qu'ils n'évoquaient pas avant. Tout simplement parce que l'émotion a été modifiée. Et ça, c'est important, il faut remplacer une émotion par une autre, une émotion négative par une émotion positive. Mais argumenter ne sert absolument à rien. C'est pas l'argument digital qui va venir changer l'émotion analogique. Ça ne marche pas. Alors, il y a un exemple extraordinaire, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce de Nathalie Sarraute, pour un oui, pour un non. C'est étonnant, le thème de la pièce, c'est un ami a dit à son autre ami, c'est bien ça. Et rien que sur l'intonation, le mot c'est bien, les termes c'est bien ça. Okay. Est-ce que ça veut dire que c'est bien ça, je me réjouis pour toi, ou est-ce que ça veut dire c'est bien ça, franchement t'es pas capable de foutre mieux que ça, c'est vraiment... En fait, est-ce que c'est un déni ou est-ce que c'est une confirmation? Et toute la pièce tourne autour de ça. Et les deux amis vont parcourir toute leur vie d'amitié pour s'apercevoir qu'en fait, ils se détestent. Et c'est une pièce assez extraordinaire qui, justement, repose là-dessus. Mais comment tu me l'as dit ? Le digital, il y a, bon, c'est bien ça, pas grand-chose, hein. Mais dans l'analogique, il y a toute une historique, une réalité, une façon d'interpréter. Et c'est une pièce magnifique, donc je vous conseille, c'est pas long à lire, j'aime beaucoup. Alors, attention, hein, il y a des conséquences qui peuvent être redoutables si vous avez des incohérences entre la communication analogique et digitale. C'est un grand moyen de manipulation mentale. Prenons un exemple simple, si vous dites à un enfant « Ah bravo, ah ouais, vraiment bravo, t'as eu 10 sur 10 à ton contrôle de calcul, franchement, je te félicite. » Ok, il est comment l'enfant avec ça? Si on lui dit ça? Mais il est content. Oui, j'espère, hein, je l'ai bien fait, non? Il est content. Hein. J'espère qu'on a la même interprétation de ma communication analogique. Et si on lui dit, ah bravo! Ah ouais, vraiment bravo! T'as eu 10 sur 10 à ton contrôle de calcul. Non mais franchement, je te félicite. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, probablement il pleure, enfin bref. Ce qu'il retient, c'est qu'il se fait engueuler. Okay. Et finalement, ce que vous dites, ça n'a aucune importance. Dans ce cadre-là, finalement, s'il sent qu'il se fait engueuler, bah, il se fait engueuler. Donc il ne va pas décoder le message digital. Donc ça peut créer des souffrances psychologiques, des angoisses irraisonnées, une perte totale d'efficacité. J'ai connu des manipulateurs, hein, j'ai connu un manipulateur, c'était assez étonnant. Je lui dis un jour, voilà, dans la Ligue Pro, là, il faut que je remplisse ce dossier administratif, j'en peux plus de remplir des dossiers administratifs, franchement, j'ai pas le courage. Il me dit, ah ouais, je comprends que ce soit difficile, hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut mettre tout le monde d'accord, hein. Bon, il y a le dossier administratif à remplir, bon, mais ça, tu sais faire. Vous voyez le côté contradictoire? Il a un ton une communication analogique où il m'aide, mais dans le texte, il me dit dossier administratif, tu sais faire. Donc, ne me dis pas que tu ne sais pas faire. Donc ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes mal, mais vous êtes mal. Parce qu'en fait, le gars, il semble vous aider, mais en fait, il ne vous aide pas du tout. Il vous aide en vous enfonçant. Bon, voilà, c'est des techniques, il faut connaître, hein, ça existe, malheureusement. Et ça peut être des techniques utilisées parfois en management. Donc évidemment, moi j'ai connu ça, angoisse irraisonnée, perte totale d'efficacité, j'ai vécu. Hein. Un chercheur au CNRS qui était comme ça aussi, enfin. Des moments où je me disais, mais comment je fais pour en faire aussi peu ? Ben forcément, j'avais un espèce de gugus épouvantable au-dessus de moi. Ça marche très bien. En fait, dernière chose, et puis après je vais vous parler d'agilité, tout échange de communication est symétrique ou complémentaire. Symétrique, les protagonistes ont le même comportement, et ils sont soit, c'est un échange équilibré, ils se respectent et ils communiquent, soit ils sont en compétition. Bertrand et moi, c'était la compétition. C'était équilibré, mais en compétition. Soit il est complémentaire, il y en a un qui est en position haute et l'autre en position basse. Et pour que ça se passe bien, il faut que ce soit accepté par les deux protagonistes, parce que si ce n'est pas accepté, on passe au mode symétrique, compétitif. Et donc, il n'y en a pas un qui veut céder. Donc ça, c'est la dernière étape. Donc, si on regarde une séquence où les quatre modes existent, les deux modes et leurs dérivés, hop. Donc, dans la séquence Bertrand et moi, une relation symétrique concurrentielle claire, aucun ne voulait céder. André arrive, c'est une communication symétrique équilibrée. Ils parlaient le même langage, ils se respectaient, ils échangeaient des informations de façon symétrique. Hein, aucun n'avait le dessus, mais ils échangeaient, ils se sont reconnus, en quelque sorte. Ensuite, André explique, André est en position haute, il explique ce qu'on fait en jeu de données, les problèmes qu'il a, et Bertrand écoute en position basse. Échange, André et Bertrand explique, Bertrand est en position haute et André en position basse. Et ce que vous voyez, c'est que pour que cet échange-là, qui est nécessaire, à savoir que les compétences étant différentes, il faut bien qu'il y en ait un qui soit en position haute et l'autre en position basse. Ben, il faut qu'avant, il y ait une relation symétrique équilibrée pour qu'on puisse rentrer calmement, de façon positive, dans cet échange. Sinon, si on est en compétitif, ce qui était le cas, moi, je n'arrivais pas à m'en sortir, on était en compétitif avec Bertrand, et ben, il était impossible que l'un de nous se mette en position basse. C'était juste pas possible. Or, c'était nécessaire pour l'échange. Et donc, évidemment, on va voir l'importance de la communication symétrique équilibrée. Alors, la communication projet idéal, et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans l'agilité, dans un projet, mais c'est vrai aussi pour les situations de management, de façon générale, lorsqu'on veut réaliser quelque chose, qu'on a besoin d'échanger dans ce cadre-là, il faut avoir une communication digitale, de façon à avoir des échanges univoques d'informations complexes basées sur des faits objectifs. Donc, il faut récupérer toute la richesse du langage, c'est-à-dire quand on vous dit quelque chose, il faut bien capter tout le message et en capter le sens exact. Ça peut être un sens complexe, parce qu'il y a des situations complexes à gérer. Dans le cas d'un échange symétrique équilibré, ça doit être la base, les deux protagonistes doivent échanger de façon symétrique et avec des ponctués de séquences complémentaires où chacun est confirmé dans sa compétence ou si jamais il est affirmé qu'il y a un rejet, il faut que ce soit de façon constructive. Dire ton truc que tu as développé là, c'est complètement foireux, tu n'as pas fait correctement ton travail, essaie de t'améliorer. Franchement, on a besoin que tu nous fasses un code de meilleure qualité la prochaine fois, donc de façon à ce qu'il progresse. Et donc, idéalement, on veut ça. Inutile de dire, vous avez vu tout ce que je vous ai présenté avant, ce n'est pas si facile. En fait, la communication humaine n'est pas adaptée au mode projet. Parce que la communication humaine, elle a comme fonction, une des principales fonctions, c'est de se définir en tant qu'individu par rapport à l'extérieur. Donc son premier but, c'est de capter des informations et pas d'en échanger. Ce qu'on veut, c'est savoir, est-ce que tu me reconnais ? Donc tant qu'on n'est pas dans la situation où on vous dit « je te reconnais », vous n'allez pas arriver à rentrer dans ce mode-là. D'où la possibilité que pendant tout un projet, deux personnes n'arrivent jamais à se parler, n'arrivent jamais à échanger. Et évidemment, quand ça ne communique pas au sein d'un projet, bah, ça se plante. C'est classique. Dans son livre sur Scrum, Claude Aubry parle des projets qui marchent très bien. Le projet est dans les temps. Et deux jours après, il est en retard de partout. Clairement, un problème de communication, les gens n'ont pas communiqué. Ils ne veulent pas communiquer. Donc, effectivement, on ne sait pas et la catastrophe arrive. Et pourquoi on a inventé l'agilité, finalement, au départ? C'est bien pour arriver à rentrer dans ce mode de communication sain, qui est que les deux partenaires se reconnaissent, ont une communication symétrique. Ils peuvent se focaliser sur le contenu du message, donc l'échange verbal, hein, la communication digitale. Et s'il y a besoin, ils peuvent passer dans des positions hautes et basses, en toute confiance, parce que les deux partenaires sont OK pour y passer. Si on regarde ce qu'on fait lorsqu'on fait le printemps agile, quand il y a une communication qui est faite sur les partenaires, systématiquement, je suis en position haute pour dire si oui ou non le document peut être validé ou pas. Quand c'est une communication sur le programme, je suis en position basse parce que c'est Émilie qui gère le programme. Et c'est complètement accepté. Et vous ne verrez jamais quelque chose de concurrentiel au sein du Club Agile lorsqu'on organise le printemps Agile, parce qu'on fait tout ce qu'il faut de façon à ce qu'on soit dans ces modes de communication. Chacun est reconnu dans son rôle et est consulté. Et donc ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui permet, en fait, bien qu'on soit tous à distance, une vingtaine à distance, de se parler via les outils électroniques. Trello, c'est un outil électronique. On se parle via les outils électroniques, mais derrière, on a réglé tous les problèmes d'ego, les problèmes qui permettent de rentrer dans un cadre symétrique, des champs symétriques équilibrés. Et la position haute et position basse sont reconnues. Il n'y a pas de concurrence sur les différentes activités. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des surprises, par exemple, d'avoir passé plus de temps que ce qu'on avait prévu à l'accueil des participants. On est désolé, ça a été un petit peu long. Mais ça permet d'organiser des événements de cette dimension-là. Alors, comment on fait? Alors, je vais vous proposer des outils de l'agilité qui vont consister, un, à neutraliser la communication analogique, faire en sorte qu'elle soit la plus neutre possible. Elle existera, bien sûr. Il ne s'agit pas de la supprimer, faire qu'elle soit neutre. Qu'on ne dise pas « Ah, il m'a jeté un regard, je n'ai pas supporté. » Non, dans un atelier agile, normalement, il n'y a pas ça. Favoriser l'échange symétrique équilibré et rompre les séquences pour établir une relation symétrique équilibrée s'il y a besoin. Quand il commence à se bouffer le nez, comment on fait pour couper la séquence symétrique concurrentielle qui fait qu'il ne s'écoute plus? On y va? Ah oui, j'ai pris cette image, ça me plaisait bien, parce que j'ai connu quelqu'un qui, quand vous parliez, n'arrêtait pas de vous regarder, fixement. Et même quand vous lui tourniez le dos, vous sentiez son regard. Donc ça, c'est typiquement une communication digitale manipulatrice pour vous troubler, et ça marche. J'étais super mal à l'aise. Donc voilà, c'est ce qu'on veut éviter. Alors, les outils agiles de communication qui permettent justement d'essayer de favoriser ces situations. Alors, je ne dirais jamais que l'agilité résout tous les problèmes, mais quand même, je pense que ça améliore bien le comportement et le fonctionnement et la vie des équipes. La première chose, bah, c'est les ateliers agiles et le collage de post-it. Ça neutralise la communication analogique. Vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, vous l'écrivez sur un post-it et vous le collez au mur. Et ça marche super bien. Ça vous évite de le dire. Enfin, vous le dites quand même, mais vous le dites sur papier. Les post-it rouges, c'est pour dire qu'on n'est pas bien, qu'on était en colère, qu'on n'a pas apprécié. Les verts, c'est pour dire qu'on était heureux, on était content. Donc ça permet de faire des compliments, de dire des choses positives ou des choses négatives. Les jaunes, c'est quand on a des questions. Les bleus, c'est technique, c'est juste pour définir les différentes zones temporelles. Ça s'appelle la timeline, c'est un mode de rétrospective. On regarde ce qui s'est passé sur les projets, et par exemple, on regarde mois par mois. Donc ça pourrait être le mois du projet. Ça, c'était la rétrospective du printemps agile de l'année dernière. Si ça vous intéresse, on fera la rétrospective du printemps agile lors du mardi meet-up du 3 octobre. Avril. Du 3 avril. Ouais, 3 octobre, ce serait un peu loin. Le mardi 3 avril. Alors, on fait en général ce genre d'atelier, ça permet de découvrir comment fonctionnent ces ateliers-là. Alors, quand vous dites « j'ai pas supporté que Bertrand m'ait dit ça », vous le mettez sur un post-it rouge et vous le collez, vous n'envoyez aucun signe direct à Bertrand. Donc vous n'avez pas de communication analogique avec Bertrand, et c'est l'animateur qui va prendre le post-it, il disait, alors ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il va vous regarder, il va regarder Bertrand, et vous allez chacun expliquer votre point de vue. Et donc ça dédramatise complètement, vous n'avez pas de communication analogique directe entre Bertrand et vous. Il y en a quand même, il y a toujours de la communication, mais elle est vraiment réduite au minimum. Donc ça permet d'exprimer un désagrément, un désaccord, de façon extrêmement neutre. Parce que quand vous allez exprimer un désaccord, rien que votre regard, ça va être interprété très vite par Bertrand de façon diverse et variée. Donc de toute façon, vous allez partir dans une situation, une façon de communiquer qui peut être négative et qui va très vite amener à une relation concurrentielle symétrique, qui rendra très difficile d'explication. Le post-it permet d'éviter ça. Et c'est vraiment fascinant, hein. Le post-it, c'est super efficace. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un des outils. Et ça permet justement d'éviter que on s'envoie des regards mortels de tueurs pour donner une critique. Donc ça, c'est la première chose. Donc des outils sur les rétrospectives, vous en avez plein. Vous avez le livre Agile Rétrospective qui vous donne plein d'ateliers qui peuvent être utilisés. Ça permet de discuter des problèmes qu'il y a eu sur un projet et de s'améliorer pour l'année prochaine. C'est évidemment ce qu'on fait pour le printemps agile. Après le printemps agile, on se fait toujours une rétrospective pour améliorer pour l'année prochaine. Alors, la communication congruente. Alors ça, c'est quelque chose qui a été inventé par Virginia Satir, qui consiste à dire quand vous voulez parler d'un problème à quelqu'un, il faut qu'il y ait les trois aspects. Un, le contexte. Deux, le vécu de la personne. Et trois, votre vécu à vous. Et pensez à mettre les trois. Alors, par exemple, là, c'est un cas, je suis commercial et l'autre personne est développeuse. Un développeur, développeur. Marc vient de m'appeler à propos du correctif que tu leur as livré. Ils ont un gros problème avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Hélène t'a mis la pression, tu as voulu la dépanner et tu n'as pas eu le temps de m'en parler. Hélène, c'est une des clientes. Ne me fais plus ce coup-là, j'ai l'air de quoi quand c'est le client qui m'apprend qu'il a été livré et que je ne suis au courant de rien. Donc vous avez le contexte. Marc, le client a appelé, il y a quelque chose qui a été livré qui ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as livré? J'imagine qu'on t'a mis la pression, que tu as voulu bien faire, tu as livré. Mais il ne faut plus faire ça parce que moi, ça me pose problème. Et donc, les deux personnes sont prises en considération dans cette communication-là, ce qui facilite derrière une communication symétrique équilibrée, puisque les deux sont reconnus, en quelque sorte. Donc, ça permet, chacun étant reconnu dans ce rôle, et s'il y a une erreur de fait, chacun est légitime à avoir fait l'erreur, en quelque sorte, en disant, bah oui, tu t'as mis la pression, tu n'as pas su réagir, bon, il va s'améliorer, ça va être positif. Alors, si vous supprimez un des éléments, ce n'est pas du tout la même chose. Si vous supprimez celui-là, Marc vient de m'appeler à propos du correctif que tu leur as livré, ils ont un gros problème avec. Ne me fais plus ce coup-là, j'ai l'air de quoi quand c'est le client qui m'apprend qu'il a été livré, que je ne suis au courant de rien. Qu'est-ce qu'en pense votre interlocuteur? Mais il ne s'exprime pas. Ouais. Son point de vue, ce qui s'est passé, n'a aucune importance. Ce qui est arrivé à lui n'a aucune importance. Il n'est pas reconnu. Donc il va répondre en disant « Ouais, mais il m'a mis la pression, non mais tu ne te rends pas compte, et ça y est, vous êtes dans la communication symétrique, concurrentielle, c'est parti. » Parce que vous n'avez pas pris en considération ce qu'il a vécu. Et évidemment, il a vécu qu'on lui a mis la pression. Il a voulu bien faire, hein, les développeurs sont comme ça, et bidouille-moi un truc, il le bidouille, il l'envoie au client. On retire le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Hélène t'a mis la pression, tu as voulu la dépanner, tu n'as pas eu le temps de m'en parler, ne me fais plus ce coup-là. J'ai l'air de quoi quand c'est le client qui m'apprend qu'il a été livré, que je ne suis au courant de rien. Ça vous fait quoi? Ben en fait, ça peut vous arriver n'importe quand. C'est horriblement angoissant parce que vous faites engueuler ou agripper sans contexte. Donc ça pousse à la perfection. Ne pas faire d'erreur. Et le ne pas faire d'erreur, c'est invivable. La première question à poser, c'est mais quel a été l'impact? Quand on organise le printemps agile, on fait plein d'erreurs. Mais la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact? Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? C'est fondamental. Sinon, on est tout le temps en train de vous mettre la pression de façon désordonnée. Toute erreur est sanctionnée et ça, c'est absolument invivable. Donc on a besoin du contexte pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la situation, est-ce que c'était grave ou est-ce que c'était pas grave. C'est vraiment important pour se caler, pour se reconnaître. Il y a celle-là. Marc vient de m'appeler à propos du correctif que tu leur as livré. Ils ont un gros problème avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Hélène, t'as mis la pression? Tu as voulu la dépanner? Tu n'as pas eu le temps de m'en parler? Et donc là, c'est moi qui disparais. Qu'est-ce que ça m'a posé comme problème? En fait, j'ose pas dire mon problème. Visiblement, j'ai certainement affaire à quelqu'un qui est dominant, qui ignore mes problèmes, donc je n'ose même plus lui en parler. Et là encore, c'est quelque chose de problématique, parce qu'il faut bien que je dise, mais moi, ça m'a mis mal. Moi, je me suis retrouvé face au client, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose de livré, donc j'étais mal. Ok, alors après, on peut le faire avec une seule des situations. Et puis parfois, il n'y a rien du tout. Alors, il n'y a ni contexte, ni le point de vue du développeur, ni le point de vue du commercial. C'est par exemple, je l'ai au téléphone, Marc, et je fais un petit sourire comme ça au développeur, de connivence en quelque sorte, pour lui dire « Non mais rien à foutre, il raconte n'importe quoi. » Alors, en verbal, ça donnerait quelque chose comme ça. Avec les clients, c'est toujours pareil. Ils te mettent la pression pour que tu les dépannes rapidement. Tout le monde est super réactif, fait son maximum. On n'a même pas le temps de respecter nos process. Et eux, ils t'engueulent parce que ça ne marche pas et qu'en plus, le commercial n'est pas au courant. Voilà. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Personne n'a fait d'erreur. C'est le monde qui est méchant. C'est l'extérieur qui est méchant. Voilà. Et ça se termine souvent par une solution géniale que vous retrouverez souvent dans beaucoup d'organisations. Mais la prochaine fois, je l'envoie sur les roses. Bah, j'envoie le client sur les roses, c'est la solution à nos problèmes d'entreprise, c'est bien connu. Le meilleur moyen de faire fonctionner la fac, c'est de ne pas avoir d'étudiants. Et les administratifs vous diraient, si on n'avait pas d'étudiants et pas de profs, ce serait génial. Il n'y a pas de problème. Bon, et c'est très courant. Hein. Alors, les gens qui parlent comme ça sont très aimés, parce qu'ils soudent le groupe. Ils évitent que le groupe regarde ses problèmes. Ils sont d'accord avec tout le monde, et c'est l'extérieur qui est méchant. Mais méfiez-vous, ils ne résolvent jamais aucun problème. Donc voilà, c'est bien de poser les choses. Si s'est passé quelque chose, on a eu un problème, c'est pas le client qui est méchant, on l'a mis en difficulté, c'était pas une mauvaise intention de notre part, mais il faut qu'on s'améliore pour la prochaine fois. Donc ces trois étapes, hein, le contexte, le point de vue de votre interlocuteur, votre point de vue à vous, qu'est-ce qui s'est passé, le vécu de chacun et le contexte, c'est vraiment important et c'est un réflexe que j'utilise. Hein. Quand j'en ai raté un, en général, je suis pas fier. Donc essayez de penser ça, c'est très concret, très pragmatique et très simple. Alors, évitez les séquences symétriques concurrentielles. Donc, les règles de rétrospective, vous trouverez ça dans les livres sur les rétrospectives. L'interrogation plus que le plaidoyer, le dialogue plus que le débat, la conversation plus que l'argumentation, la compréhension plus que la justification. Là, vous avez un dialogue symétrique équilibré et là, un dialogue symétrique concurrentiel. Donc, on essaye d'éviter de rentrer dans le concurrentiel. On ne débat pas en rétrospective. On évoque les problèmes pour améliorer l'avenir. Mais on ne débat pas en rétrospective. L'arbitrage par le client, ce n'est pas pour rien qu'on fait régulièrement des produits, on livre rapidement des produits, on les montre au client. Ça évite que l'équipe soit en train de s'engueuler pour savoir s'il faut faire cette fonctionnalité ou celle-là. Non, c'est le client qui décide. Vous avez aussi les techniques dites de Lean Startup où on met très vite le produit, surtout dans le domaine du web, entre les mains des clients et c'est lui qui décide. Et ça, je vois ça dans les équipes d'étudiants. Souvent, j'ai des étudiants qui débattent, est-ce qu'il faut faire le produit comme ci, comme ça? Et je leur dis, ben, vous faites une démo, vous montrez au client et vous verrez. Et ça évite qu'ils rentrent dans un débat symétrique concurrentiel où chacun a son point de vue. Or, quand vous allez vendre un produit, c'est quand même le client qui décide. Donc, aussi des collaborations via un atelier, collaboration avec les différents silos, les différents représentants du produit, ça peut être utile. Donc on fait pas mal d'ateliers comme ça, de brainstorming, de story mapping par exemple, c'est un atelier qui peut être joué avec les clients. Le bâton de parole, donc ça c'est un bâton de parole, donc chacun parle à son tour, il n'y en a qu'un qui parle à chaque fois, ça oblige à s'écouter. J'ai fait ça avec des étudiants pour la rétrospective de mon cours. J'ai été impressionné par la qualité d'échange qu'on a eu. Et puis quand vous arrivez au troisième tour, ils osent vous dire des trucs qu'ils ne vous disaient pas au premier tour. C'est assez rigolo. Ils se lâchent. Et comme ça, j'ai eu plein de retours très, très intéressants pour mon cours. Là aussi, ça favorise l'échange symétrique équilibré. Vous ne laissez pas un dialogue concurrentiel s'établir. Il faut que de toute façon le bâton refasse le tour. Donc ça prend quand même un certain temps. On attend de se calmer. Le partage d'informations, donc à travers ce qu'on appelle le scrum ou la mêlée quotidienne, où toute l'équipe se réunit autour du tableau de tâches. Le Kanban, qui est un tableau qui permet de mettre en place et de donc partager l'information de façon de faire en sorte que tout le monde ait la même information. ce qui favorise la connaissance et le dialogue symétrique. Tout le monde a la même information. On utilise un Kanban qui s'appelle Trello, c'est un Kanban électronique pour le printemps agile, et à chaque fois, on a très très vite l'information. Et donc, on est toujours dans une relation où tout le monde a l'information en même temps. Enfin, sauf ceux qui n'ont pas réussi à utiliser Trello, mais bon, ceux-là, on leur téléphone quand il y a besoin, mais... Bon, c'est des outils électroniques, donc de temps en temps, c'est un peu délicat. Et puis, vous avez, pour rompre les relations symétriques équilibrées, vous avez l'intervention d'un tiers. On met quelqu'un de plus dans la boucle, ce qui n'aura pas forcément la même relation avec chacun des protagonistes. Le recadrage. Changer la vision des choses. Placez-vous du point de vue du client. Vous discutez de cette fonctionnalité, mais quel est son intérêt pour le client? Je vous parlais du contexte tout à l'heure. Il s'est passé ça, mais quel a été l'impact? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Essayez de voir les choses de façon différente. Parce que si vous voyez toujours les choses uniquement en termes de « on a fait une erreur », vous allez passer votre temps à essayer d'être parfait, ce qui est le meilleur moyen de planter tous les projets. La perfection est le premier ennemi des projets. Donc ce qu'il faut, c'est savoir mais quel est l'impact? Quel a été l'impact? Est-ce que c'était grave? Est-ce que c'était pas grave? Et quand c'était pas grave, on va peut-être pas prioriser des actions pour résoudre ce problème-là si c'était pas grave. Donc le recadrage, c'est changer la vision des choses. Et c'est un outil qui est très très utilisé par Vatlavix pour le traitement des schizophrènes, justement. Essayer de faire des recadrages pour qu'ils voient le monde de façon différente. La rétrospective, je vous ai montré la timeline. Il y a plein d'outils de rétrospective. C'est quand même une des grandes pratiques agiles. Et la rétrospective a un grand intérêt, c'est que ça permet de parler de la relation. Dans quelle relation est-on? Et ça, c'est important parce que la relation déterminant le sens de ce que vous dites, parce que c'est interprété dans le cadre de relation, ça englobe l'échange, il est important à un moment de parler de la relation. De dire, mais tu ne me reconnais pas comme chef de projet. C'est important qu'à un moment, ça ait pu être évoqué. Et en général, après, ça se résout, ça va beaucoup mieux. Prescrire le symptôme. Alors là, c'est carrément des méthodes psychiatriques, mais qui peuvent être utiles. Quand vous avez un insomniaque, le meilleur moyen qu'il s'endorme, c'est de lui dire « Surtout, vous faites tout pour ne pas vous endormir. » C'est paradoxal, oui. Parce que c'est quand il va s'apercevoir qu'il arrive à ne pas dormir, qu'il va s'apercevoir qu'il est maître de son propre sommeil. Et se forcer à dormir, ça ne marche pas parce que l'endormissement est spontané. Tandis qu'il va se concentrer sur son non-sommeil, il va finir par s'endormir, ça va le lasser. Là, c'est la même façon. Alors, si vous avez des gens, ils n'arrivent pas à se faire confiance, vous leur dites, hop, vous ne faites pas confiance, vous mettez un protocole rigoureux et vous le respectez à la lettre. Ça va les pomper comme c'est pas possible. Au bout de 2 jours, ils seront mis un protocole entre eux, ils arriveront à s'entendre. Des choses toutes simples. Pousser à l'extrême certains comportements fait que les gens changent d'eux-mêmes. Ça marche avec l'administration de l'université, hein. Ils en sont à un point où ils sont tellement rigoureux sur le plan administratif qu'on peut faire ce qu'on veut. Il suffit de savoir où sont les marges de liberté, mais quand on les connaît, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire parce que là, ils regardent, et puis il y a des trucs qu'ils ne regardent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, et là, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est des trucs de chef de projet. Hein. Vous ne dites pas que je vous l'ai dit parce que je vais me faire mal voir. Ah zut, c'est filmé. Ça va être sur le site du CMU. Pas grave. L'injonction paradoxale. Alors ça, c'est super efficace, j'adore. Il est imbuvable, ok, mais surtout, il est persuadé que vous ne pouvez pas le faire. Alors, vous êtes sûr que l'équipe qui était complètement démotivée, qui se disait « Oh purée, il est chiant ce client, mais c'est pas possible. » Ouais, il est imbuvable, hein, ouais. Mais tu savais, il est persuadé que vous ne pouvez pas le faire. Alors là, ils repartent et ils vont prouver aux clients qui est pénible qu'ils savent le faire. Et ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. Les gens... ils vont dire, ce client, ok, mais on va lui prouver qu'on peut le faire. Ça s'utilise très bien avec les étudiants. C'est pour ça que je mets des vrais clients en face, parce qu'ils ont des relations avec les vrais clients normales, donc les clients les énervent. Je fais la rétrospective derrière et je peux leur amener un discours comme ça de façon à motiver l'équipe et après ils partent à toute vitesse. Ils ont une capacité d'auto-organisation une fois qu'ils ont décidé qu'ils allaient le faire, qui est à partir du moment où ils savent pourquoi ils le font, on va lui montrer qu'on est capable de le faire même s'ils ne le croient pas, ils y vont. Voilà. Alors la plus belle injonction paradoxale que j'ai vue quand même, c'est quand Emmanuel Macron a dit « La France n'est pas réformable ». C'était magnifique. J'ai rigolé quand j'ai entendu ça. Voilà, c'est typiquement une injonction paradoxale. Hein. Parce que si vous voulez vous opposer aux réformes, vous les donnez raison. Et si vous voulez donner tort, il faut accepter la réforme. Vous avez le choix. Voilà, donc si vous regardez Emmanuel Macron, je pense qu'il connaît pas mal de ses techniques de communication, il est assez fort là-dessus, et vous constaterez qu'il énerve. Et c'est bon signe. Parce que quand on fait bien ses communications, on énerve. Et c'est parce qu'on énerve qu'on a des recadrages, qu'on a des mobilisations. Donc on dit qu'il est maladroit en communication par moment, qu'il est maladroit parce qu'il y a d'ici ou ça. À mon avis, il y a beaucoup de calculs derrière. Vous regardez sa communication par rapport à ça, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Je ne fais pas l'apologie d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'en communication, quand même, il touche. Voilà. Donc, quelques références. Donc, vous avez le livre de Paul Vatlavix. Vous avez Du désir au plaisir de changer de Françoise Kourilski, qui est une élève de Vatlavix. Les livres sur les rétrospectives, en particulier Project Rétrospective. Donc, un livre en anglais assez costaud, mais qui vous donne la base psychologique des rétrospectives, donc un peu de j'ai parlé. Déjà, la rétrospective, c'est un livre beaucoup plus pratique. Et puis, changement, le langage du changement. Comment, par le langage, on arrive à changer les choses? C'est important, parce que finalement, changer, c'est mobiliser les équipes pour qu'elles aient envie d'aller vers ailleurs, vers une autre façon de fonctionner. Et c'est quand même le langage et la communication qui en sont le moteur. Donc oui, si on veut changer les choses, beaucoup plus qu'agir, il faut communiquer. Je vous remercie.